pour faire le projet de HMR dans le PQI. Parce que là, on va faire le stationnement. Donc, ça va prendre 18 mois à peu près, le stationnement. Mais dans 18 mois, on sera prêt à commencer parce qu'on va pouvoir creuser où est le stationnement actuel. Puis les argents pour HMR seront complètement là dans le PQI.
Pour moi, le ministre a dit une chose de son contrat. Il a commencé par dire « on a l'argent pour HMR, on a l'argent pour le stationnement ». Puis après ça, il termine en disant « l'argent, les sommes restantes seront dans le PQI dans le futur ». Là, il y a une crainte, Philippe, parce que est-ce que le « seront », là, on parle au futur, on s'entend. Alors, il y aura une élection dans un an. Est-ce qu'on va sécuriser les sommes dans le plan québécois des infrastructures? Il y a toutes sortes de questions qui vont se poser. Et le délai, Philippe, qui est annoncé, on parle de 10 ans pour construire un hôpital.
Incroyable.
Ça ne fonctionne pas, Philippe. Il y a quelque chose qui est brisé dans notre système. On essaie tous de comprendre pourquoi. Puis qui dit 10 ans, dit dépassement de coûts. On s'entend. Parce que c'est pas vrai qu'on va faire un hôpital sur 10 ans puis ça va nous coûter 5 milliards de dollars. C'est totalement impossible. Et je te parlais il y a quelques instants, je te disais que je suis allée consulter des documents sur le site de la Société québécoise des infrastructures. Ça, c'est le ministère, l'organisme qui relève de Jonathan Julien, le ministre des infrastructures. Et j'ai un document devant moi, c'est les appels d'offres à venir printemps 2024. Et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont y apparaît, complexe hospitalier. On devait lancer les premiers appels d'offres quelque part entre juillet et septembre dernier. On avait même prédit et prévu la construction quelque part entre octobre et décembre l'année passée. Nous sommes en mai 2025. Il n'y a toujours rien qui s'est passé. Alors la question, c'est que s'est-il, qu'est-il arrivé entre ces appels d'offres annoncés pour ce projet et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement qui s'est enlisé lui-même dans un bourbier qu'il a créé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis des semaines en fait, puis aujourd'hui on a connu un dénouement de ce dérapage auquel on assiste depuis des semaines et des semaines. Pression des médias, pression des employés, pression de l'Association de la construction du Québec. Ils disent, écoutez, là, si ça continue, on n'y arrivera pas. Parce que là, on parle beaucoup de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais il y a aussi d'autres hôpitaux. Le premier ministre a référé à 30 projets qui seront, entre guillemets, débloqués. Quand tu parles de débloqués, Philippe, ce n'est pas des projets dont on garantit la finalité. C'est des projets, parfois, certains sont en phase planification, mais ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser dans un échéancier, mettons, sur 5 ans ou 3 ans. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas que le premier ministre qui avait de la pression, ni le ministre de la Santé, les députés également. Les députés, moi, j'ai parlé à un député de la CAQ qui m'a dit, moi, il n'est pas question que mon projet soit annoncé 3 mois avant le déclenchement de la prochaine élection, là, parce que je vais perdre toute ma crédibilité. Alors, le caucus a mis de la pression sur le ministre de la Santé pour dire, hey, ça nous prend, nos projets. Parce que les hôpitaux dont on parle, Philippe, c'est pas du caprice, là. C'est des hôpitaux qui sont vraiment, qui sont dus, comme on dit en bon québécois.
Ouais, je pense à l'hôpital de Mont-Laurier. Là. Je me souviens d'une entrevue que j'ai réalisée avec le maire de Mont-Laurier. Puis bon, il y a beaucoup de députés caquistes dans le coin. Ben, ils font quoi pour nous là à l'heure actuelle? Et le dossier n'avançait pas. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on parle du 85 millions, Nathalie, qui vient d'être trouvé pour Maisonneuve-Rosemont. Puis je parlais récemment avec quelqu'un là, qui connaît parfaitement la machine gouvernementale et qui me disait, écoute, pour trouver 85 millions de dollars dans le PQI, le Programme québécois des immobilisations, ce qui est 0,5 de 1 %, là, n'importe qui connaît ça, là, ça va lui prendre 20 minutes. Tu peux trouver 85 millions dans un programme comme ça en 20 minutes. Tu peux rapporter une couple de trucs que tu refais. Et là, la preuve, c'est qu'on vient de le trouver là, très rapidement, alors que semble-t-il que c'était impossible. Et la grande question, c'est pourquoi on ne voulait pas le trouver? Pourquoi on ne voulait pas le trouver? Pourquoi on ne voulait pas aller de l'avant?
Bien, moi, je pense qu'on n'a pas voulu admettre une erreur de planification qui relève de l'amateurisme. Lorsque Christian Dubé annonce 2 fois plutôt qu'une l'agrandissement, la rénovation, la construction d'un nouvel hôpital pour Maisonneuve-Rosemont, puis qu'il nous dit en commission parlementaire cette semaine, il y a quelques jours, je n'avais pas l'autorisation du Conseil des ministres lorsque j'ai fait ces 2 annonces. Là, tu te dis, attends, on est dans un contexte où on fait preuve d'amateurisme, alors que ce gouvernement est là depuis 2018. Alors, je pense que derrière ce dérapage, le gouvernement a tout fait pour éviter d'admettre qu'il s'est trompé dans sa planification. Il a omis de dire que ces sommes nécessaires à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, finalement, ne sont pas apparues dans le programme québécois, dans le plan québécois des infrastructures. C'est comme si les bottines n'avaient pas suivi les babines. Ouais. Je le dis très, très franchement. Et c'est très dommageable pour le gouvernement parce que derrière cette crise des infrastructures, Philippe, il y a une crise de confiance à l'endroit du gouvernement de François Legault.
Et on parle beaucoup de Maisonneuve-Rosemont, oui. Mais tu sais, tantôt, on parlait de l'hôpital de Mont-Laurier, à la Malbaie également, Victoriaville.
Arthabasca, Saint-François-d'Assise, Mont-Laurier, Saint-Eustache, Pierre-Boucher, Lévis, Charlemagne, Sept-Îles, la Malbaie, Jonquière, Sainte-Marie, Notre-Dame. Il y en a, là, puis j'en oublie parce que là, j'ai 13, d'ailleurs, sur ces 13 hôpitaux, j'ajoute hôpital Maisonneuve-Rosemont. Combien sont dans des comtés péquistes? 8. Alors, tu vois, c'est un dossier qui va faire très mal à la CAQ. Et je pense qu'il y a des gens qui vont s'en rappeler parce qu'il y a quelque chose de totalement surréaliste dans tout ça. Moi, lorsque j'ai vu les employés la semaine dernière du bloc opératoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sortir pour manifester, je n'en croyais pas. Je ne croyais pas ce que je voyais à la télévision. Selon moi, c'est une première. Des infirmières qui ont fait des sit-ins, il y en a eu pour manifester face à une convention collective qui n'était pas renouvelée. On a vu des médecins qui font des moyens de pression. On en a vu. Mais là, des employés, tu sais, qui sortent avec leurs bonnets de chirurgien et leurs habits d'infirmiers, d'infirmières de bloc opératoire. Imagine l'énergie, le temps perdu, Philippe. Tout ça parce que il y a eu des tracasseries, un manque de planification, de l'amateurisme sur le plan politique, des tracasseries administratives. Puis la question que je me pose, c'est, ça sert à quoi la Société québécoise des infrastructures si on est incapable de planifier des projets aussi importants pour le Québec? Et en matière de gouvernance, en matière de la gouvernance, on réfère à la façon dont les projets sont priorisés. Je vais te dire directement, Philippe, il y a quelque chose de pourri dans la façon dont on établit la priorité de tous ces projets. Lorsque tu vois l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un hôpital du tiers-monde. Puis malheureusement, il y en a une trentaine comme ça au Québec. Alors, le gouvernement, dans le fond, ne fait que récolter ce qu'il a semé dans ce dossier.
Ouais, voilà. Ben Nathalie, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Souhaitons que cette fois-ci soit la bonne. Mais comme tu dis, il y a encore beaucoup, beaucoup de scepticisme. Merci, on se retrouve demain. C'était Nathalie Normandeau. Au retour, Dimitri Soudas est là. Puis on va commencer par parler de sirop d'érable.
98.5, circulation.
Alors, la 132 en direction ouest, véhicule en panne, voie de droite à la hauteur du pont Victoria, 640 est avant l'autoroute des Laurentides. L'autoroute des Laurentides, c'est avant le secteur Saint-Martin à Laval, 13 sud avant Hickmore, 13 nord Hickmore et avant la 640, 25 Terrebonne, on est rendu avant l'avenue Marcel-Villeneuve. Descaries nord, là, on affiche presque complet. Tunnel La Fontaine à Yves-Frévaux, c'est un 50 à 60 minutes, c'est avant de Mortagne en direction de Montréal. Pont Samuel-Champlain avant de la Vérendrye, pont Charles-de-Gaulle, c'est toujours avant Marien. 40 est Cavendish et ça va pour le métro. Levez vos sacs aux produits d'ici. Obtenez 250 points moins à l'achat de produits participants d'ici chez Métro, Jean Coutu, Super C et Brunet. Détails au programme moi.ca.
La méga vente d'entrepôts Sport Expert se poursuit. De jeudi à dimanche, seulement à la place Sport Expert à Laval. Trouvez des vêtements, chaussures et équipements de sport à prix imbattable.
Bon, ben c'est fait. T'as-tu hâte de rencontrer ton nouveau coloc?
Non. Toi, là, t'as-tu déjà eu des colocs?
Oh oui, j'en ai eu un tellement fiable, bon avec l'argent. C'est incroyable ce qu'il pouvait faire avec 45 $ par mois. Et vite, genre 300 mégabits par seconde.
300? Wow, c'est donc bien vite.
Il s'appelle E-Box. En fait, il habite encore à la maison. Je pourrais te le présenter.
Ben oui.
Fais de E-Box ton nouveau coloc préféré avec de l'Internet 100% fibre, 300 mégabits par seconde à seulement 45 $ par mois. Détail e-box.ca.
Qu'est-ce qu'on fait face à un monde où tout bascule? C'est à qui de prendre les choses en main pour bâtir notre avenir?
C'est à nous. C'est à nous de faire croître notre richesse, notre fierté, notre électricité. Éolienne, hydroélectrique et solaire qui fait l'envie du monde. C'est à nous d'avoir le courage d'investir toutes nos énergies qui se calculent bien au-delà des mégawatts. C'est à nous d'accélérer notre plan.
Un plan qui assure notre autonomie énergétique.
À nous. Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Hydro-Québec, c'est à nous.
Toyota RAV4 LE à 4 roues motrices pour seulement 112 $ par semaine avec zéro comptant.
Mon boss, c'est Ryan Reynolds. Puis il y a des demandes un peu spéciales. Tu sais, il veut que je chante une berceuse avant sa sieste.
mon petit trésor.
Puis à son réveil, il veut des œufs brouillés bien spéciaux. Deux œufs fraîchement cassés et brouillés avec des patates croustillantes, des saucisses émiettées puis de la sauce chipotle crémeuse. Mais vu que je cuisine mal, j'ai demandé à Tim de les faire. Ryan est bien fier de sa recette. Allez donc y goûter. Ça s'appelle le délice aux œufs brouillés puis c'est seulement chez Tim.
À qui tu parlais?
Au Québec. Mais j'ai fini. J'arrive.
Connaissez-vous 1-800-GOT-JUNK?
Nous sommes une entreprise de ramassage d'objets encombrants, clé en main.
Et on se déplace quand ça vous convient.
Pas quand ça nous arrange.
Oh que non!
Dès que vous nous appelez, on arrive à votre porte avec notre camion étincelant.
Et nos uniformes tout propres.
Et dans la plupart des cas, on passe le jour même.
Bye-bye cochonnerie, bye-bye les vieilles affaires.
Suffit de pointer.
Et on s'en occupe.
Débarrassez-vous de votre junk.
Appelez 1-800-GOT-JUNK.
Ou visitez 1-800-GOT-JUNK.com.
La commission débat entrevue. Circulation.
Oui, alors on est de retour. On a un petit problème avec avec notre bloc publicitaire. On va régler ça dans les prochaines minutes. Est-ce qu'on est en mesure de parler à notre ami Dimitri Soudas? Ben oui, bien sûr, Dimitri est là. Salut, Dimitri.
Je suis là. Je pensais que c'est Patrice Roy qui a coupé le micro.
Non. Comme au débat, quand il a coupé le micro à Jack Meeting. Hey, j'ai dit qu'on parlerait de sirop d'érable pour commencer ta chronique parce que tu parlais du menu, du lunch avec les deux équipes, l'équipe canadienne et l'équipe américaine à la Maison-Blanche aujourd'hui. On a parlé du dessert. Et c'est Catherine qui demandait si sur le financier, ou c'est Valérie, je pense, qui demandait sur le financier, le dessert qui était servi, si le sirop d'érable était canadien ou américain. T'as pas une nouvelle là-dessus, hein?
Je vais devoir retourner à ma source, okay. Mais le meilleur sirop d'érable, de toute façon, il est canadien.
Ben voilà, t'as bien raison de le dire. Dimitri, plus sérieusement, c'était une rencontre tellement attendue aujourd'hui. Ta première impression?
Ma première impression, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est à Washington que l'histoire s'est écrite. Une rencontre très attendue entre M. Carney et le président américain. Et non, ce n'était pas une scène de House of Cards.
Non, tout à fait.
Et contre toute attente, le ton était cordial, constructif même. Il n'y a pas eu de joute verbale, pas de caméra brisée. C'était deux hommes d'État, chacun défendant ses intérêts. Mais surtout, écoutons Mark Carney sur la question de la souveraineté canadienne.
As you know from real estate, there are some places that are never for sale.
That's true.
We're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace, that you visited as well.
That's true.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever.
Alors voilà, c'est quand même bien envoyé. Hein. Il dit, vous connaissez l'immobilier, monsieur le président, vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne sont jamais à vendre. Et lui, Trump dit, oui, c'est vrai. Il dit, comme ici, la Maison-Blanche, c'est pas à vendre. Le palais de Buckingham, c'est pas à vendre. Et Carney ajoute, ben moi, j'ai consulté les propriétaires du Canada pendant la dernière élection. Évidemment, il faisait allusion à tous les Canadiens qu'il a rencontrés en campagne. Et je peux vous assurer que le Canada n'est pas à vendre.
Tout à fait. Donc, une mêlée de presse qui a duré quand même assez longtemps. On n'a pas eu ni l'épisode Zelensky, ni l'épisode de Keir Starmer, le premier ministre britannique, qui s'est présenté là comme Willy Wonka avec l'invitation qui était faite en or. Monsieur Carney, au nom du Canada, s'est tenu debout. Monsieur Trump ne parle plus du 51e, du gouverneur du Canada.
Ouais.
Il a même un peu... lentement mais sûrement commencer à faire un peu marche arrière sur l'idée du 52e État sans complètement lâcher le morceau.
Il a dit là-dessus, ben it takes two to tango, hein, ça prend deux personnes pour danser.
Tout à fait.
Et là, si le Canada ne veut pas danser dans ce numéro-là, ben c'est très difficile de le faire.
Et M. Carney était prêt. C'était une rencontre très importante au-delà de ce qui s'est passé devant les caméras. Selon ce qu'on me dit, la rencontre bilatérale pendant le dîner a couvert plusieurs enjeux, tant économiques que les enjeux de sécurité. Une chose est certaine, et M. Carney l'a confirmé plus tard lors de sa conférence de presse, la renégociation de la relation économique entre le Canada et les États-Unis est officiellement commencé. Comment ça va se terminer, on ne le sait pas. Donald Trump a répété, on ne veut pas de vos autos.
Ouais, voilà, il était très ferme là-dessus.
Et c'est là où le mandat de M. Carney va au-delà de la négociation avec les États-Unis. Le vrai mandat du premier ministre du Canada, c'est, on le dit depuis des mois, comment réduire la dépendance commerciale du Canada des États-Unis. Et ce n'est pas une question d'aller trouver de nouvelles ententes. Les ententes sont en place, surtout l'entente de libre-échange entre